Chapitre 6. Londres, d'avril à septembre 1822. Détresse, secours imprévus, logement sur un cimetière, nouveaux camarades d'infortune, nos plaisirs, mon cousin de la Boüétardais. J'amusai un gant de mon aventure et nous fîmes le projet de nous enfermer à Westminster. Mais nos misères nous appelaient chez les morts d'une manière moins poétique. Mes fonds s'épuisaient. Baylis et Deboeuf s'étaient hasardés, moyennant un billet de remboursement en cas de non-vente, à commencer l'impression de l'essai. Là finissait leur générosité et rien n'était plus naturel. Je m'étonne même de leur hardiesse. Les traductions ne venaient plus. Pelletier, homme de plaisir, s'ennuyait d'une obligeance prolongée. Il m'aurait bien donné ce qu'il avait s'il n'eût préféré le manger. Mais quêter des travaux, ça et là, faire une bonne œuvre de patience, impossible à lui. Hingan voyait aussi s'amoindrir son trésor. Entre nous deux, nous ne possédions que 60 francs. Nous diminuâmes la ration de vivres comme sur un vaisseau lorsque la traversée se prolonge. Au lieu d'un shilling par tête, nous ne dépensions plus à dîner qu'un demi-shilling. Le matin, à notre thé, nous retranchâmes la moitié du pain et nous supprimâmes le beurre. Ces abstinences fatiguaient les nerfs de mon ami. Son esprit battait la campagne. Il prêtait l'oreille et avait l'air d'écouter quelqu'un. En réponse, il éclatait de rire ou versait des larmes. Hingan croyait au magnétisme et s'était troublé la cervelle du galimatia de Swedenborg. Il me disait le matin qu'on lui avait fait du bruit la nuit. Il se fâchait si je lui niais ses imaginations. L'inquiétude qu'il me causait m'empêchait de sentir mes souffrances. Elles étaient grandes pourtant. Cette diète rigoureuse, jointe au travail, échauffait ma poitrine malade. Je commençais à avoir de la peine à marcher, et néanmoins je passais les jours et une partie des nuits dehors afin qu'on ne s'aperçût pas de ma détresse. Arrivés à notre dernier shilling, je convins avec mon ami de le garder pour faire semblant de déjeuner. Nous arrangeâmes que nous achèterions un pain de 2 sous, que nous nous laisserions servir comme de coutume l'eau chaude et la théière, que nous n'y mettrions point de thé, que nous ne mangerions pas le pain, mais que nous boirions l'eau chaude avec quelques petites miettes de sucre restées au fond du sucrier. 5 jours s'écoulèrent de la sorte. La faim me dévorait. J'étais brûlant. Le sommeil m'avait fui. Je suçais des morceaux de linge que je trempais dans de l'eau. Je mâchais de l'herbe et du papier. Quand je passais devant des boutiques de boulangers, mon tourment était horrible. Par une rude soirée d'hiver, je restais 2 heures planté devant un magasin de fruits secs et de viande fumée, avalant des yeux tout ce que je voyais. J'aurais mangé non seulement les comestibles, mais leurs boîtes, paniers et corbeilles. Le matin du 5e jour, tombant d'inanition, je me traîne chez Hingan. Je heurte à la porte. Elle était fermée. J'appelle. Hingan est quelque temps sans répondre. Il se lève et m'ouvre. Il riait d'un air égaré. Sa redingote était boutonnée. Il s'assit devant la table à thé. « Notre déjeuner va venir, » me dit-il d'une voix extraordinaire. Je crus voir quelques taches de sang à sa chemise. Je déboutonne brusquement sa redingote. Il s'était donné un coup de canif profond de 2 pouces dans le bout du sein gauche. Je criai au secours. La servante alla chercher un chirurgien. La blessure était dangereuse. Ce nouveau malheur m'obligea de prendre un parti. Hingan, conseiller au Parlement de Bretagne, s'était refusé à recevoir le traitement que le gouvernement anglais accordait aux magistrats français, de même que je n'avais pas voulu accepter le shilling, aumônée par jour aux émigrés. J'écrivis à M. de Barentin et lui révélai la situation de mon ami. Les parents de Hingan accoururent et l'emmenèrent à la campagne. Dans ce moment même, mon oncle de Bédé me fit parvenir 40 écus, oblation touchante de ma famille persécutée. Il me sembla voir tout l'or du Pérou, le denier des prisonniers de France nourrit le français exilé. Ma misère avait mis obstacle à mon travail. Comme je ne fournissais plus de manuscrits, l'impression fut suspendue. Privé de la compagnie de Hingan, je ne gardais pas chez Baylis un logement d'une guinée par mois. Je payais le terme échu et m'en allais. Au-dessous des émigrés indigents qui m'avaient d'abord servi de patrons à Londres, il y en avait d'autres, plus nécessiteux encore. Il est des degrés entre les pauvres comme entre les riches. On peut aller depuis l'homme qui s'habille l'hiver avec un chien jusqu'à celui qui grelotte dans ses haillons tailladés. Mes amis me trouvèrent une chambre mieux appropriée à ma fortune décroissante. On n'est pas toujours au comble de la prospérité. Ils m'installèrent aux environs de Marylebone Street, dans un garret dont la lucarne donnait sur un cimetière. Chaque nuit, la crécelle du watchman m'annonçait que l'on venait de voler des cadavres. J'eus la consolation d'apprendre que Hingant était hors de danger. Des camarades me visitaient dans mon atelier. À notre indépendance et à notre pauvreté, on nous eut pris pour des peintres sur les ruines de Rome. Nous étions des artistes en misère sur les ruines de la France. Ma figure servait de modèle et mon lit de siège à mes élèves. Ce lit consistait dans un matelas et une couverture. Je n'avais point de drap. Quand il faisait froid, mon habit et une chaise, ajoutée à ma couverture, me tenaient chaud. Trop faible pour remuer ma couche, elle restait comme Dieu me l'avait retournée. Mon cousin de la Bouettardée, chassé, faute de paiement, d'un taudis irlandais, quoiqu'il eût mis son violon en gage, vint chercher chez moi un abri contre le constable. Un vicaire bas-breton lui prêta un lit de sangle. La Bouettardée était, ainsi que Hingant, conseiller au Parlement de Bretagne. Il ne possédait pas un mouchoir pour s'envelopper la tête. Mais il avait déserté avec armes et bagages, c'est-à-dire qu'il avait emporté son bonnet carré et sa robe rouge, et il couchait sous la pourpre à mes côtés. Facétieux, bon musicien, ayant la voix belle, quand nous ne dormions pas, il s'asseyait tout nu sur ses sangles, mettait son bonnet carré et chantait des romances en s'accompagnant d'une guitare qui n'avait que 3 cordes. Une nuit que le pauvre garçon fredonnait ainsi l'hymne à Vénus de Métastase, Squendi Propizia, il fut frappé d'un vent coulis, la bouche lui tourna et il en mourut. Mais pas tout de suite, car je lui frottais cordialement la joue. Nous tenions des conseils dans notre chambre haute, nous raisonnions sur la politique, nous nous occupions des cancans de l'émigration. Le soir, nous allions chez nos tantes et cousines danser, après les modes enrubannées et les chapeaux faits. Chapitre 7. Londres d'avril à septembre 1822. Fête somptueuse. Fin de mes 40 écus. Nouvelle détresse. Table d'hôte. Évêque. Dîner à London Tavern. Manuscrit de Camden. Ceux qui lisent cette partie de mes mémoires ne se sont pas aperçus que je les ai interrompus 2 fois. Une fois pour offrir un grand dîner au duc d'York, frère du roi d'Angleterre, une autre fois pour donner une fête pour l'anniversaire de la rentrée du roi de France à Paris, le 8 juillet. Cette fête m'a coûté 40 000 francs. Les pères et les pairesses de l'Empire britannique, les ambassadeurs, les étrangers de distinction ont rempli mes salons magnifiquement décorés. Mes tables étincelaient de l'éclat des cristaux de Londres et de l'or des porcelaines de Sèvres. Ce qu'il y a de plus délicat en mai, vin et fleurs abondaient. Portland Place était encombré de brillantes voitures. Collinet et la musique d'Almax enchantaient la mélancolie fashionable des dandies et les élégances rêveuses des ladies pensivement dansantes. L'opposition et la majorité ministérielle avaient fait trêve. Lady Canning causait avec Lord Londonderry, Lady Jersey avec le duc de Wellington. Monsieur, qui m'a fait faire cette année des compliments de mes somptuosités de 1822, ne savait pas, en 1793, qu'il existait non loin de lui un futur ministre, lequel, en attendant ses grandeurs, jeûnait au-dessus d'un cimetière pour péché de fidélité. Je me félicite aujourd'hui d'avoir essayé du naufrage, entrevu la guerre, partagé les souffrances des classes les plus humbles de la société, comme je m'applaudis d'avoir rencontré dans les temps de prospérité l'injustice et la calomnie. J'ai profité à ces leçons. La vie, sans les maux qui la rendent grave, est un hochet d'enfant. J'étais l'homme aux 40 écus, mais le niveau des fortunes n'étant pas encore établi, et les denrées n'ayant pas baissé de valeur, rien ne fit contrepoids à ma bourse qui se vida. Je ne devais pas compter sur de nouveaux secours de ma famille, exposée en Bretagne au double fléau, de la chouannerie et de la terreur. je ne voyais plus devant moi que l'hôpital ou la Tamise. Des domestiques d'émigrés que leur maître ne pouvait plus nourrir s'étaient transformés en restaurateurs pour nourrir leur maître. Dieu sait la chère lie que l'on faisait à ces tables d'hôtes. Dieu sait aussi la politique qu'on y entendait. Toutes les victoires de la République étaient métamorphosées en défaites. Et si par hasard on doutait d'une restauration immédiate, on était déclaré jacobin. Deux vieillardos évêques, qui avaient un faux air de la mort, se promenaient au printemps dans le parc Saint-James. « Monseigneur, disait l'un, croyez-vous que nous soyons en France au mois de juin ?»« Mais monseigneur, répondait l'autre après avoir mûrement réfléchi, je n'y vois pas d'inconvénient. » L'homme aux ressources, Pelletier, me déterra, ou plutôt me dénicha, dans mon air. Il avait lu dans un journal de Yarmouth qu'une société d'antiquaires s'allait occuper d'une histoire du comté de Suffolk et qu'on demandait un Français capable de déchiffrer des manuscrits français du XIIe siècle de la collection de Camden. Le parson, ou ministre, de Beccles, était à la tête de l'entreprise, c'était à lui qu'il se fallait adresser. « Voilà votre affaire, me dit Pelletier. Partez, vous déchiffrerez ces vieilles paperasses, vous continuerez à envoyer de la copie de l'essai à Baylis. Je forcerai ce pleutre à reprendre son impression. Vous reviendrez à Londres avec 200 guinées, votre ouvrage fait et vogue la galère. » Je voulus balbutier quelques objections. « Eh, que diable ! » s'écria mon homme. « Comptez-vous rester dans ce palais où j'ai déjà un froid horrible ? Si Rivarol, Chansonnet, Mirabeau-Tonneau et moi avions eu la bouche en cœur, nous aurions fait de belles besognes dans les actes des apôtres. Savez-vous que cette histoire de Hingant fait un boucan d'enfer ? Vous vouliez donc vous laisser mourir de faim tous deux ? Ah, ha, ha, pouf, ha, ha !» Pelletier, plié en deux, se tenait les genoux à force de rire. Il venait de placer 100 exemplaires de son journal aux colonies. Il en avait reçu le paiement et faisait sonner ses guinées dans sa poche. Il m'emmena de force avec la Boitardais apoplectique et 2 émigrés en guenilles qui se trouvèrent sous sa main dîner à London Tavern. Il nous fit boire du vin de Porto, manger du roast beef et du plum pudding à en crever. « Comment, monsieur le comte, disait-il à mon cousin, avez-vous ainsi la gueule de travers ?» La Boitardais, moitié choquée, moitié content, expliquait la chose de son mieux. Il racontait qu'il avait été tout à coup saisi en chantant ces deux mots « Oh, bella venere !» Mon pauvre paralysé avait un air si mort, si transi, si râpé, en barbouillant sa bella venere, que Pelletier se renversa d'un fou rire et pensa culbuter la table en la frappant en dessous de ses deux pieds. À la réflexion, le conseil de mon compatriote, vrai personnage de mon autre compatriote le sage, ne me parut pas si mauvais. Au bout de 3 jours d'enquête, après m'être fait habiller par le tailleur de Pelletier, je partis pour Beccles avec quelque argent que me prêta de Boff sur l'assurance de ma reprise de l'essai. Je changeai mon nom, qu'aucun anglais ne pouvait prononcer, en celui de Combourg qu'avait porté mon frère et qui me rappelait les peines et les plaisirs de ma première jeunesse. Descendu à l'auberge, je présentai au ministre du lieu une lettre de Deboeuf, fort estimée dans la librairie anglaise, laquelle lettre me recommandait comme un savant du premier ordre. Parfaitement accueilli, je vis tous les gentlemen du canton et je rencontrai 2 officiers de notre marine royale qui donnaient des leçons de français dans le voisinage. Chapitre 8. Londres, d'avril à septembre 1822. Mes occupations dans la province. Mort de mon frère, malheur de ma famille, de France, lettre de Hingant. Je repris des forces. Les courses que je faisais à cheval me rendirent un peu de santé. L'Angleterre, vue ainsi en détail, était triste mais charmante. Partout la même chose et le même aspect. Monsieur de Combourg était invité à toutes les parties. Je dus à l'étude le premier adoucissement de mon sort. Cicéron avait raison de recommander le commerce des lettres dans les chagrins de la vie. Les femmes étaient charmées de rencontrer un Français pour parler français. Les malheurs de ma famille, que j'appris par les journaux et qui me firent connaître sous mon véritable nom, car je ne pus cacher ma douleur, augmentèrent à mon égard l'intérêt de la société. Les feuilles publiques annoncèrent la mort de Monsieur de Malesherbes, celle de sa fille, Madame la présidente de Rosambeau, celle de sa petite-fille, madame la comtesse de Chateaubriand, et celle de son petit gendre, le comte de Chateaubriand, mon frère, immolés ensemble le même jour, à la même heure, au même échafaud. Monsieur de Malesherbes était l'objet de l'admiration et de la vénération des Anglais. Mon alliance de famille avec le défenseur de Louis XVI ajouta à la bienveillance de mes hôtes. Mon oncle de Bédé me manda les persécutions éprouvées par le reste de mes parents. Ma vieille et incomparable mère avait été jetée dans une charrette avec d'autres victimes et conduite du fond de la Bretagne dans les geôles de Paris, afin de partager le sort du fils qu'elle avait tant aimé. Ma femme et ma sœur Lucille, dans les cachots de Rennes, attendaient leur sentence. Il avait été question de les enfermer au château de Combourg, devenu forteresse d'État. On accusait leur innocence du crime de mon émigration. Qu'était-ce que nos chagrins en terre étrangère comparés à ceux des Français demeurés dans leur patrie? Et pourtant, quel malheur, au milieu des souffrances de l'exil, de savoir que notre exil même devenait le prétexte de la persécution de nos proches. Il y a 2 ans que l'anneau de mariage de ma belle-sœur fut ramassé dans le ruisseau de la rue Cassette. On me l'apporta, il était brisé. Les 2 cerceaux de l'alliance étaient ouverts et pendaient, enlacés l'un à l'autre. Les noms s'y lisaient parfaitement gravés. Comment cette bague s'était-elle retrouvée? Dans quel lieu et quand avait-elle été perdue? La victime, emprisonnée au Luxembourg, avait-elle passé par la rue Cassette en allant au supplice? Avait-elle laissé tomber la bague du haut du tombereau? Cette bague avait-elle été arrachée de son doigt après l'exécution? Je fus tout saisi à la vue de ce symbole qui, par sa brisure et son inscription, me rappelait de si cruelle destinée. Quelque chose de mystérieux et de fatal s'attachait à cet anneau que ma belle-sœur semblait m'envoyer du séjour des morts, en mémoire d'elle et de mon frère. Je l'ai remis à son fils, puisse-t-il ne pas lui porter malheur. Cher orphelin, image de ta mère, au ciel pour toi je demande ici-bas les jours heureux retranchés à ton père et les enfants que ton oncle n'a pas. Ce mauvais couplet et 2 ou 3 autres sont le seul présent de noces que j'ai pu faire à mon neveu lorsqu'il s'est marié. Un autre monument m'est resté de ses malheurs. Voici ce que m'écrit M. de Contencin qui, en fouillant dans les archives de la maison de ville et de la Sainte-Chapelle, a trouvé l'ordre du tribunal révolutionnaire qui envoyait mon frère et sa famille à l'échafaud. Monsieur le vicomte, il y a une sorte de cruauté à réveiller dans une âme qui a beaucoup souffert le souvenir des maux qui l'ont affecté le plus douloureusement. Cette pensée m'a fait hésiter quelque temps à vous offrir un bien triste document qui, dans mes recherches historiques, m'est tombé sous la main. C'est un acte de décès, signé avant la mort par un homme qui s'est toujours montré implacable comme elle, toutes les fois qu'il a trouvé réunis sur la même tête l'illustration et la vertu. Je désire, monsieur le vicomte, que vous ne me sachiez pas trop mauvais gré d'ajouter à vos archives de famille un titre qui rappelle de si cruels souvenirs. J'ai supposé qu'il aurait de l'intérêt pour vous, puisqu'il avait du prix à mes yeux, et dès lors j'ai songé à vous l'offrir. Si je ne suis point indiscret, je m'en féliciterai doublement, car je trouve aujourd'hui dans ma démarche l'occasion de vous exprimer les sentiments de profond respect et d'admiration sincère que vous m'avez inspiré depuis longtemps et avec lesquels je suis, monsieur le vicomte, votre très humble et très obéissant serviteur. A. de Contencin, hôtel de la préfecture de la Seine, Paris, le 28 mars 1835. Voici ma réponse à cette lettre. J'avais fait, monsieur, chercher à la Sainte-Chapelle les pièces du procès de mon malheureux frère et de sa femme, mais on n'avait pas trouvé l'ordre que vous avez bien voulu m'envoyer. Cet ordre, et tant d'autres, avec leur rature, leur nom estropié, auront été présentés à Fouquier, au tribunal de Dieu. Il lui aura bien fallu reconnaître sa signature. Voilà les temps qu'on regrette, et sur lesquels on écrit des volumes d'admiration. Au surplus, j'envie mon frère. Depuis longues années, du moins, il a quitté ce triste monde. Je vous remercie infiniment, monsieur, de l'estime que vous voulez bien me témoigner dans votre belle et noble lettre, et vous prie d'agréer l'assurance de la considération très distinguée avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc. Cet ordre de mort est surtout remarquable par les preuves de la légèreté avec laquelle les meurtres étaient commis. Des noms sont mal orthographiés, d'autres sont effacés. Ces défauts de forme, qui auraient suffi pour annuler la plus simple sentence, n'arrêtaient point les bourreaux. Ils ne tenaient qu'à l'heure exacte de la mort, à 5 heures précises. Voici la pièce authentique, je la copie fidèlement. Exécuteur des jugements criminels, tribunal révolutionnaire. L'exécuteur des jugements criminels ne fera faute de se rendre à la maison de justice de la conciergerie pour y mettre à exécution le jugement qui condamne Mousset, Desprémenil, Chapelier, Touret, elle, Lamoignon Malzerbe, la femme Lepelletier Rosambeau, Château, Briand, et sa femme, le nom propre effacé, illisible, la veuve du Châtelet, la femme de Gramont, ci-devant duc, la femme Rochechuard, entre parenthèses Rochechouart, et Parmentier. 14. À la peine de mort. L'exécution aura lieu aujourd'hui, à 5 heures précises, sur la place de la Révolution de cette ville. L'accusateur public, H.Q. Fouquier. Fait au tribunal, le 3 Floréal, l'an second de la République française. 2 voitures. Le 9 Thermidor sauva les jours de ma mère, mais elle fut oubliée à la conciergerie. Le commissaire conventionnel la trouva. « Que fais-tu là, citoyenne ? » lui dit-il. « Qui es-tu ? Pourquoi restes-tu ici ?» Ma mère répondit qu'ayant perdu son fils, elle ne s'informait point de ce qui se passait et qu'il lui était indifférent de mourir dans la prison ou ailleurs. « Mais tu as peut-être d'autres enfants ? » répliqua le commissaire. Ma mère nomma ma femme et mes sœurs détenues à Rennes. L'ordre fut expédié de mettre celle-ci en liberté et l'on contraignit ma mère de sortir. Dans les histoires de la Révolution, on a oublié de placer le tableau de la France extérieure auprès du tableau de la France intérieure, de peindre cette grande colonie d'exilés, variant son industrie et ses peines de la diversité des climats et de la différence des mœurs des peuples. En dehors de la France, tout s'opérant par individus, métamorphoses d'État, afflictions obscures, sacrifices sans bruit, sans récompense. Et dans cette variété d'individus de tout rang, de tout âge, de tout sexe, une idée fixe, conservée. La vieille France voyageuse, avec ses préjugés et ses fidèles, comme autrefois l'Église de Dieu errante sur la terre, avec ses vertus et ses martyrs. En dedans de la France, tout s'opérant par masse, barrère, annonçant des meurtres et des conquêtes, des guerres civiles et des guerres étrangères, les combats gigantesques de la Vendée et des bords du Rhin, les trônes croulant au bruit de la marche de nos armées, nos flottes abîmées dans les flots, le peuple déterrant les monarques à Saint-Denis et jetant la poussière des rois morts au visage des rois vivants pour les aveugler. La Nouvelle-France, glorieuse de ses nouvelles libertés, fière même de ses crimes, stable sur son propre sol, tout en reculant ses frontières, doublement armée du glaive du bourreau et de l'épée du soldat. Au milieu de mes chagrins de famille, quelques lettres de mon ami Hingan vinrent me rassurer sur son sort. Lettres d'ailleurs fort remarquables. Il m'écrivait au mois de septembre 1795. « Votre lettre du 23 août est pleine de la sensibilité la plus touchante. Je l'ai montrée à quelques personnes qui avaient les yeux mouillés en la lisant. J'ai été presque tentée de leur dire ce que Diderot disait le jour que Jean-Jacques Rousseau vint pleurer dans sa prison à Vincennes. Voyez comme mes amis m'aiment. Ma maladie n'a été, au vrai, qu'une de ces fièvres de nerfs qui font beaucoup souffrir et dont le temps et la patience sont les meilleurs remèdes. » Je lisais pendant cette fièvre des extraits du Phédon et du Timée. Ces livres-là donnent appétit de mourir, et je disais, comme Caton, « It must be so, Plato, thou reasonest well. » Je me faisais une idée de mon voyage, comme on se ferait une idée d'un voyage aux grandes Indes. Je me représentais que je verrais beaucoup d'objets nouveaux dans le monde des esprits, comme l'appelle Swedenborg. Et surtout, que je serais exempt des fatigues et des dangers du voyage. Chapitre 9. Londres, d'avril à septembre 1822, Charlotte. À 4 lieues de Beccles, dans une petite ville appelée Bungay, demeurait un ministre anglais, le révérend Monsieur Ives, grand helléniste et grand mathématicien. Il avait une femme, jeune encore, charmante de figure, d'esprit et de manière, et une fille unique, âgée de 15 ans. Présenté dans cette maison, j'y fus mieux reçu que partout ailleurs. On buvait, à la manière des anciens anglais, et on restait 2 heures à table après les femmes. Monsieur Ives, qui avait vu l'Amérique, aimait à conter ses voyages, à entendre le récit des miens, à parler de Newton et d'Homère. Sa fille, devenue savante pour lui plaire, était excellente musicienne et chantait comme aujourd'hui Madame Pasta. Elle reparaissait au thé et charmait le sommeil, communicatif du vieux ministre. Appuyée au bout du piano, j'écoutais Miss Ives en silence. La musique finie, la young lady me questionnait sur la France, sur la littérature. Elle me demandait des plans d'études, elle désirait particulièrement connaître les auteurs italiens et me pria de lui donner quelques notes sur la Divina Commedia et la Gérusalemme. Peu à peu, j'éprouvais le charme timide d'un attachement sorti de l'âme. J'avais paré les Floridiennes, je n'aurais pas osé relever le gant de Miss Ives. Je m'embarrassais quand j'essayais de traduire quelques passages du Tasse. J'étais plus à l'aise avec un génie plus chaste et plus mâle, Dante. Les années de Charlotte Ives et les miennes concordaient. Dans les liaisons qui ne se forment qu'au milieu de votre carrière, il entre quelques mélancolies. Si l'on ne se rencontre pas de prime abord, les souvenirs de la personne qu'on aime ne se trouvent point mêlés à la partie des jours où l'on respira sans la connaître. Ces jours qui appartiennent à une autre société sont pénibles à la mémoire et comme retranchés de notre existence. Y a-t-il disproportion d'âge? Les inconvénients augmentent. Le plus vieux a commencé la vie avant que le plus jeune fût au monde. Le plus jeune est destiné à demeurer seul à son tour. L'un a marché dans une solitude en deçà d'un berceau, l'autre traversera une solitude au-delà d'une tombe. Le passé fut un désert pour le premier, l'avenir sera un désert pour le second. Il est difficile d'aimer avec toutes les conditions de bonheur, jeunesse, beauté, temps opportun, harmonie de cœur, de goût, de caractère, de grâce et d'année. Ayant fait une chute de cheval, je restai quelque temps chez M. Ives. C'était l'hiver. Les songes de ma vie commencèrent à fuir devant la réalité. Miss Ives devenait plus réservée. Elle cessa de m'apporter des fleurs. Elle ne voulut plus chanter. Si l'on m'eût dit que je passerais le reste de ma vie ignorée au sein de cette famille solitaire, je serais mort de plaisir. Il ne manque à l'amour que la durée pour être à la fois l'Éden avant la chute et l'Hosanna sans fin. Faites que la beauté reste, que la jeunesse demeure, que le cœur ne se puisse lasser, et vous reproduirez le ciel. L'amour est si bien la félicité primeraine qu'il est poursuivi de la chimère d'être toujours. Il ne veut prononcer que des serments irrévocables. Au défaut de ses joies, il cherche à éterniser ses douleurs. Ange tombé, il parle encore le langage qu'il parlait au séjour incorruptible. Son espérance est de ne cesser jamais. Dans sa double nature et dans sa double illusion ici-bas, il prétend se perpétuer par d'immortelles pensées et par des générations intarissables. Je voyais venir avec consternation le moment où je serais obligé de me retirer. La veille du jour annoncé comme celui de mon départ, le dîner fut morne. À mon grand étonnement, M. Ives se retira au dessert en emmenant sa fille, et je restai seule avec Madame Ives. Elle était dans un embarras extrême. Je crus qu'elle m'allait faire des reproches d'une inclination qu'elle avait pu découvrir, mais dont jamais je n'avais parlé. Elle me regardait, baissait les yeux, rougissait, elle-même, séduisante dans ce trouble, il n'y a point de sentiment qu'elle n'eût pu revendiquer pour elle. Enfin, brisant avec effort l'obstacle qui lui ôtait la parole, « Monsieur, me dit-elle en anglais, vous avez vu ma confusion. Je ne sais si Charlotte vous plaît, mais il est impossible de tromper une mère. ma fille a certainement conçu de l'attachement pour vous. Monsieur Ives et moi, nous nous sommes consultés. Vous nous convenez sous tous les rapports. Nous croyons que vous rendrez notre fille heureuse. Vous n'avez plus de patrie. Vous venez de perdre vos parents. Vos biens sont vendus. Qui pourrait donc vous rappeler en France? En attendant notre héritage, vous vivrez avec nous. De toutes les peines que j'avais endurées, celle-là me fut la plus sensible et la plus grande. Je me jetai aux genoux de Madame Ives. Je couvris ses mains de mes baisers et de mes larmes. Elle croyait que je pleurais de bonheur et elle se mit à sangloter de joie. Elle étendit le bras pour tirer le cordon de la sonnette. Elle appela son mari et sa fille. « Arrêtez, m'écriai-je, je suis mariée !» Elle tomba, évanouie. Je sortis, et sans entrer dans ma chambre, je partis à pied. J'arrivai à Beccles et je pris la poste pour Londres. Après avoir écrit à Madame Ives une lettre dont je regrette de n'avoir pas gardé de copie. Le plus doux, le plus tendre et le plus reconnaissant souvenir m'est resté de cet événement. Avant ma renommée, la famille de Monsieur Ives est la seule qui m'ait voulu du bien et qui m'ait accueilli d'une affection véritable. Pauvre, ignoré, proscrit, sans séduction, sans beauté, je trouve un avenir assuré, une patrie, une épouse charmante pour me retirer de mon délaissement. Une mère presque aussi belle que sa fille pour me tenir lieu de ma vieille mère. Un père instruit, aimant et cultivant les lettres pour remplacer le père dont le ciel m'avait privé. Qu'apportais-je en compensation de tout cela? Aucune illusion ne pouvait entrer dans le choix que l'on faisait de moi. Je devais croire être aimée. Depuis cette époque, je n'ai rencontré qu'un attachement assez élevé pour m'inspirer la même confiance. Quant à l'intérêt dont j'ai paru être l'objet dans la suite, je n'ai jamais pu démêler si des causes extérieures, si le fracas de la renommée, la parure des partis, l'éclat des hautes positions littéraires ou politiques n'étaient pas l'enveloppe qui m'attirait des empressements. Au reste, en épousant Charlotte Ives, mon rôle changeait sur la terre. Enseveli dans un comté de la Grande-Bretagne, je serais devenu un gentleman chasseur. Pas une seule ligne ne serait tombée de ma plume. J'eusse même oublié ma langue, car j'écrivais en anglais, et mes idées commençaient à se former en anglais dans ma tête. Mon pays aurait-il beaucoup perdu à ma disparition? Si je pouvais mettre à part ce qui m'a consolé, je dirais que je compterais déjà bien des jours de calme, au lieu des jours de trouble échus à mon lot. L'Empire, la Restauration, les divisions, les querelles de la France, que m'eût fait tout cela? Je n'aurais pas eu chaque matin à pallier des fautes, à combattre des erreurs. Est-il certain que j'ai un talent véritable et que ce talent évalue la peine du sacrifice de ma vie? Dépasserai-je ma tombe? Si je vais au-delà, y aura-t-il, dans la transformation qui s'opère, dans un monde changé et occupé de toute autre chose, y aura-t-il un public pour m'entendre? Ne serais-je pas un homme d'autrefois, inintelligible aux générations nouvelles? Mes idées, mes sentiments, mon style même, ne seront-ils pas à la dédaigneuse postérité chose ennuyeuse et vieille? Mon ombre pourra-t-elle dire comme celle de Virgile à Dante, « Poeta fui e cantai, je fus poète et je chantais ». Chapitre 10. Retour à Londres. Revenu à Londres, je n'y trouvais pas le repos. J'avais fui devant ma destinée comme un malfaiteur devant son crime. Combien il avait dû être pénible à une famille si digne de mes hommages, de mes respects, de ma reconnaissance, d'éprouver une sorte de refus de l'homme inconnu qu'elle avait accueilli, auquel elle avait offert de nouveaux foyers avec une simplicité, une absence de soupçons, de précautions qui tenaient des mœurs patriarcales. Je me représentais le chagrin de Charlotte, les justes reproches que l'on pouvait et qu'on devait m'adresser, car enfin j'avais mis de la complaisance à m'abandonner à une inclination dont je connaissais l'insurmontable illégitimité. Était-ce donc une séduction que j'avais vaguement tentée, sans me rendre compte de cette blâmable conduite? Mais en m'arrêtant, comme je le fis, pour rester honnête homme, ou en passant par-dessus l'obstacle pour me livrer à un penchant flétri d'avance par ma conduite, je n'aurais pu que plonger l'objet de cette séduction dans le regret ou la douleur. De ces réflexions amères, je me laissais aller à d'autres sentiments non moins remplis d'amertume. Je maudissais mon mariage qui, selon les fausses perceptions de mon esprit, alors très malade, m'avait jeté hors de mes voies et me privait du bonheur. Je ne songeais pas qu'en raison de cette nature souffrante à laquelle j'étais soumis et de ces notions romanesques de liberté que je nourrissais, un mariage avec Miss Ives eût été pour moi aussi pénible qu'une union plus indépendante. Une chose restait pure et charmante en moi, quoique profondément triste. L'image de Charlotte. Cette image finissait par dominer mes révoltes contre mon sort. Je fus 100 fois tenté de retourner à Bungay, d'aller, non me présenter à la famille troublée, mais me cacher sur le bord du chemin pour voir passer Charlotte, pour la suivre au temple où nous avions le même Dieu, sinon le même autel, pour offrir à cette femme à travers le ciel l'inexprimable ardeur de mes vœux, pour prononcer, du moins en pensée, cette prière de la bénédiction nuptiale que j'aurais pu entendre de la bouche d'un ministre dans ce temple. Ô Dieu, unissez, s'il vous plaît, les esprits de ces époux, et versez dans leur cœur une sincère amitié. Regardez d'un œil favorable votre servante. Faites que son joug soit un joug d'amour et de paix, qu'elle obtienne une heureuse fécondité. Faites, Seigneur, que ces époux voient tous deux les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, et qu'ils parviennent à une heureuse vieillesse. Errant de résolution en résolution, j'écrivais à Charlotte de longues lettres que je déchirais. Quelques billets insignifiants que j'avais reçus d'elle me servaient de talisman. Attachée à mes pas par ma pensée, Charlotte, gracieuse, attendrie, me suivait en les purifiant par les sentiers de la sylphide. Elle absorbait mes facultés. Elle était le centre à travers lequel plongeait mon intelligence, de même que le sang passe par le cœur. Elle me dégoûtait de tout, car j'en faisais un objet perpétuel de comparaison à son avantage. Une passion vraie et malheureuse est un levain empoisonné qui reste au fond de l'âme et qui gâterait le pain des anges. Les lieux que j'avais parcourus, les heures et les paroles que j'avais échangées avec Charlotte étaient gravés dans ma mémoire. Je voyais le sourire de l'épouse qui m'avait été destinée. Je touchais respectueusement ses cheveux noirs. Je pressais ses beaux bras contre ma poitrine, ainsi qu'une chaîne de lys que j'aurais portée à mon cou. Je n'étais pas plutôt dans un lieu écarté que Charlotte, aux blanches mains, se venait placer à mes côtés. Je devinais sa présence, comme la nuit on respire le parfum des fleurs qu'on ne voit pas. Privée de la société d'un gant, mes promenades, plus solitaires que jamais, me laissaient en pleine liberté d'y mener l'image de Charlotte. À la distance de 30 000 de Londres, il n'y a pas une bruyère, un chemin, une église que je n'aie visitée. Les endroits les plus abandonnés, un préau d'ortie, un fossé planté de chardons, tout ce qui était négligé des hommes, devenait pour moi des lieux préférés, et dans ces lieux, Byron respirait déjà. La tête appuyée sur ma main, je regardais les sites dédaignés. Quand leur impression pénible m'affectait trop, le souvenir de Charlotte venait me ravir. J'étais alors comme ce pèlerin, lequel, arrivé dans une solitude à la vue des rochers du Sinaï, entendit chanter le rossignol. À Londres, on était surpris de mes façons. Je ne regardais personne, je ne répondais point, je ne savais ce que l'on me disait. Mes anciens camarades me soupçonnaient atteint de folie. Chapitre 11. Rencontre extraordinaire. Qu'arriva-t-il à Bungay après mon départ? Qu'est devenue cette famille où j'avais apporté la joie et le deuil? Vous vous souvenez toujours bien que je suis ambassadeur auprès de George IV et que j'écris à Londres en 1822, ce qui m'arriva à Londres en 1795. Quelques affaires depuis 8 jours m'ont obligé d'interrompre la narration que je reprends aujourd'hui. Dans cet intervalle, mon valet de chambre est venu me dire, un matin entre midi et 1 heure, qu'une voiture était arrêtée à ma porte et qu'une dame anglaise demandait à me parler. Comme je me suis fait une règle dans ma position publique de ne refuser personne, j'ai dit de laisser monter cette dame. J'étais dans mon cabinet. On a annoncé Lady Sultan. J'ai vu entrer une femme en deuil, accompagnée de 2 beaux garçons également en deuil. L'un pouvait avoir 16 ans et l'autre 14. Je me suis avancée vers l'étrangère. Elle était si émue qu'elle pouvait à peine marcher. Elle m'a dit d'une voix altérée, « My lord, do you remember me? Me reconnaissez-vous ?»« Oui, j'ai reconnu Miss Ives. Les années qui avaient passé sur sa tête ne lui avaient laissé que leur printemps. Je l'ai prise par la main, je l'ai fait asseoir, et je me suis assis à ses côtés. Je ne lui pouvais parler. Mes yeux étaient pleins de larmes. Je la regardais en silence à travers ses larmes. Je sentais que je l'avais profondément aimée par ce que j'éprouvais. Enfin, j'ai pu lui dire à mon tour, « Et vous, madame, me reconnaissez-vous ? » Elle a levé les yeux qu'elle tenait baissés et, pour toute réponse, elle m'a adressé un regard souriant et mélancolique comme un long souvenir. Sa main était toujours entre les deux miennes. Charlotte m'a dit, « Je suis en deuil de ma mère. Mon père est mort depuis plusieurs années. Voilà mes enfants. » À ces derniers mots, elle a retiré sa main et s'est enfoncée dans son fauteuil, en couvrant ses yeux de son mouchoir. Bientôt, elle a repris, « My lord, je vous parle à présent dans la langue que j'essayais avec vous à Bungay. Je suis honteuse, excusez-moi. Mes enfants sont fils de l'amiral Sultan, que j'épousais 3 ans après votre départ d'Angleterre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tête assez à moi pour entrer dans le détail. Permettez-moi de revenir. » Je lui ai demandé son adresse en lui donnant le bras pour la reconduire à sa voiture. Elle tremblait et je serrais sa main contre mon cœur. Je me rendis le lendemain chez Lady Sultan. Je la trouvai seule. Alors commença entre nous la série de ces « Vous souvient-il ?» qui font renaître toute une vie. À chaque « Vous souvient-il ?» nous nous regardions. Nous cherchions à découvrir sur nos visages ces traces du temps qui mesurent cruellement la distance du point de départ et l'étendue du chemin parcouru. J'ai dit à Charlotte, « Comment votre mère vous apprit-elle ? » Charlotte rougit et m'interrompit vivement. « Je suis venue à Londres pour vous prier de vous intéresser aux enfants de l'amiral Sultan. L'aîné désirerait passer à Bombay. Monsieur Canning, nommé gouverneur des Indes, est votre ami. Il pourrait emmener mon fils avec lui. Je serai bien reconnaissante, et j'aimerais à vous devoir le bonheur de mon premier enfant. » Elle appuya sur ces derniers mots. « Ah, madame, lui répondis-je, que me rappelez-vous ? Quel bouleversement de destinée ! Vous qui avez reçu à la table hospitalière de votre père un pauvre banni, vous qui n'avez point dédaigné ses souffrances, vous qui peut-être aviez pensé à l'élever jusqu'à un rang glorieux et inespéré ! C'est vous qui réclamez sa protection dans votre pays. Je verrai, monsieur Canning, votre fils, quoi qu'il m'en coûte de lui donner ce nom, votre fils, si cela dépend de moi, ira aux Indes. Mais dites-moi, madame, que vous fait ma fortune nouvelle? Comment me voyez-vous aujourd'hui? Ce mot, my lord, que vous employez me semble bien dur. » Charlotte répliqua, « Je ne vous trouve point changé, pas même vieilli. Quand je parlais de vous à mes parents pendant votre absence, c'était toujours le titre de My Lord que je vous donnais. Il me semblait que vous le deviez porter. N'étiez-vous pas pour moi comme un mari, My Lord and Master, mon seigneur et maître ? Cette gracieuse femme avait quelque chose de l'Ève de Milton en prononçant ces paroles. Elle n'était point née du sein d'une autre femme. Sa beauté portait l'empreinte de la main divine qui l'avait pétrie. Je courus chez M. Canning et chez Lord Londonderry. Ils me firent des difficultés pour une petite place comme on m'en aurait fait en France, mais ils promettaient, comme on promet à la cour. Je rendis compte à Lady Sultan de ma démarche. Je la revis 3 fois. À ma 4e visite, elle me déclara qu'elle allait retourner à Bungay. Cette dernière entrevue fut douloureuse. Charlotte m'entretint encore du passé, de notre vie cachée, de nos lectures, de nos promenades, de la musique, des fleurs d'antan, des espérances d'autrefois. « Quand je vous ai connu, me disait-elle, personne ne prononçait votre nom. Maintenant, qui l'ignore ? Savez-vous que je possède un ouvrage et plusieurs lettres écrits de votre main ? » Les voilà. Et elle me remit un paquet. « Ne vous offensez pas si je ne veux rien garder de vous. » Et elle se mit à pleurer. « Farewell, farewell, me dit-elle. souvenez-vous de mon fils, je ne vous reverrai jamais, car vous ne viendrez pas me chercher à Bungay. J'irai, m'écriai-je, j'irai vous porter le brevet de votre fils. » Elle secoua la tête d'un air de doute et se retira. Rentrée à l'ambassade, je m'enfermai et j'ouvris le paquet. Il ne contenait que des billets de moi insignifiants et un plan d'étude avec des remarques sur les poètes anglais et italiens. J'avais espéré trouver une lettre de Charlotte. Il n'y en avait point. Mais j'aperçus, aux marges du manuscrit, quelques notes anglaises, françaises et latines, dont l'encre vieillie et la jeune écriture témoignaient qu'elles étaient depuis longtemps déposées sur ces marges. Voilà mon histoire avec Miss Ives. En achevant de la raconter, il me semble que je perds une seconde fois Charlotte dans cette même île où je la perdis une première. Mais entre ce que j'éprouve à cette heure pour elle et ce que j'éprouvais aux heures dont je rappelle les tendresses, il y a tout l'espace de l'innocence. Des passions se sont interposées entre Miss Ives et Lady Sultan. Je ne porterai plus à une femme ingénue la candeur des désirs, la suave ignorance d'un amour resté à la limite du rêve. J'écrivais alors sur le vague des tristesses. Je n'en suis plus au vague de la vie. Eh bien, si j'avais serré dans mes bras, épouse et mère, celle qui me fut destinée, vierge et épouse, c'eût été avec une sorte de rage, pour flétrir, remplir de douleur et étouffer ces 27 années livrées à un autre après m'avoir été offerte. Je dois regarder le sentiment que je viens de rappeler comme le premier de cette espèce entré dans mon cœur. Il n'était cependant point sympathique à ma nature orageuse. Elle l'aurait corrompu. Elle m'eût rendu incapable de savourer longuement de saintes délectations. C'était alors qu'aigri par les malheurs, déjà pèlerin d'outre-mer, ayant commencé mon solitaire voyage, c'était alors que les folles idées peintes dans le mystère de René m'obsédaient et faisaient de moi l'être le plus tourmenté qui fût sur la terre. Quoi qu'il en soit, la chaste image de Charlotte, en faisant pénétrer au fond de mon âme quelques rayons d'une lumière vraie, dissipa d'abord une nuée de fantômes. Ma démone, comme un mauvais génie, se replongea dans l'abîme, elle attendit l'effet du temps pour renouveler ses apparitions.